Vous écoutez RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans RTL Midi. 90 minutes de grand direct pour tout savoir de l'actualité. Vous le savez, nous expliquons et vous, vous commentez. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Vos appels au 3210, nous dialoguons avec vous. 3210, vos avis, vos analyses attendues également sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. À partir de maintenant, c'est vous qui êtes aux commandes de l'émission. L'actualité, Christelle, c'est cette plainte déposée contre le CHU de Reims.
Une femme de 73 ans est décédée sur un brancard aux urgences, une crise cardiaque après 2h30 d'attente. Nous ferons le point dans un instant et nous comptons sur vos témoignages au 3210, patients, médecins, sur ces urgences de plus en plus dépassées. Kim et Donald pour écrire une page d'histoire. Les dirigeants nord-coréens et le président des États-Unis se rencontreront d'ici à fin mai. Sommet historique sur fond de menaces nucléaires. Dans RTL Midi aussi, les demi-aveux de Nordal Lelandais. Il avoue avoir pris en stop le caporal Arthur Noyer le soir de sa disparition, mais affirme l'avoir déposé un peu plus loin. Des animaux, des fleurs, des cœurs ou le signe de l'infini, les femmes sont désormais plus nombreuses à se faire tatouer que les hommes. À l'occasion du salon du tatouage, nous attendons vos témoignages. 3210, la météo. Bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
C'est le copier-coller d'hier, vous êtes fait tatouer la météo aujourd'hui?
C'est ça, c'est un petit peu l'idée, oui. Alors on a surtout beaucoup plus de nuages sur la moitié nord comme d'habitude, avec des pluies plus fréquentes aussi sur la moitié nord. Ça ne veut pas dire qu'il fait beau dans le sud, mais en tout cas, il y a des éclaircies, il y en aura pratiquement tout l'après-midi avec un tout petit peu d'instabilité quand même dans le golfe du Lion. Et au nord, pas mal de passages nuageux et des pluies assez soutenues d'ailleurs qui arrivent par la pointe bretonne. Les températures, on amorce la douceur qui remonte. 10 degrés à Lille et à Metz cet après-midi, 13 à Brest, 14 à Paris, à Dijon et Aurillac, 15 à Orléans, 16 pour Perpignan et Ajaccio et 19 degrés à Biarritz.
Et Valérie et ses cartes de retour avant 13h, tout à l'heure après 13h, notre rendez-vous, une histoire, un jour sur la Terre. Et à 13h50, pour rire, Laurent Gérard. La question du jour sur RTL.fr, c'est vendredi, donc nous parlerons voiture tout à l'heure et voiture du futur, des véhicules autonomes. Seriez-vous prêt à monter dans une voiture autonome? Eh bien, vous répondez pour l'instant oui à 27% et non à 69%. On peut en parler dès maintenant tous ensemble au 3210. Et Yann nous appelle le premier, il est en Loire-Atlantique.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Mon avis, c'est joker. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, ça peut être une protection et une sécurité pour autrui. Les inconvénients, c'est est-ce que c'est vraiment au top, top, top. J'ai une voiture avec le régulateur, tout ça, je me bloque à 135, hop, ça y est, c'est parti, je ne fais plus rien. Mais par contre, si je veux intervenir, hop, j'ai un coup de frein à donner. Est-ce que ça, la voiture autonome, est-ce qu'elle le fera?
Appelez-nous au 3210. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On peut mourir aujourd'hui encore sur un brancard aux urgences dans notre pays. Mardi dernier, une femme de 73 ans a attendu 2h30 sur un brancard donc aux urgences du CHU de Reims. Elle a fait un arrêt cardiaque et les soignants n'ont pu la réanimer. Aujourd'hui, sa famille a décidé de porter plainte, Morad Jabari.
Oui, le fils s'est toujours partagé entre la colère et une immense tristesse. Après avoir perdu il y a 5 jours sa mère dans des conditions épouvantables, il repense sans cesse à ses heures d'attente, à la lente agonie de sa mère sur ce brancard. Le fils souhaite désormais avoir une expertise médicale sur les circonstances exactes du décès de sa maman, convaincu d'une négligence gravissime au moment de la prise en charge de sa mère. Maître Emmanuel Ludo est l'avocat en charge du dossier.
Elle est arrivée de sa maison de retraite gérée par l'hôpital, déjà dans un état dégradé. Les ambulanciers ont tiré la sonnette d'alarme, ont fait un rapport alarmant au SAMU. Au point que ces ambulanciers ont menacé d'appeler la presse si les choses ne s'arrangeaient pas. Le journal local a été interpellé alors que cette malheureuse dame était en train d'agoniser. Donc c'est tout cela qui doit être mis sur la table devant l'expert afin qu'on puisse en tirer les conséquences.
Le syndicat Force Ouvrière assure que les soignants ne sont pas à blâmer et dénonce plutôt le manque de moyens à l'hôpital. Ce jour-là, aux urgences, les trois médecins ont reçu 55 patients en moins de 5 heures.
Morad Jabari, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, regrette ce drame, mais elle reste prudente. Écoutez.
On est toujours extrêmement attristé, en colère de voir quelqu'un qui décède aux urgences, évidemment. Moi, j'ai demandé qu'on me fasse remonter l'enquête interne au sein de l'hôpital pour comprendre les circonstances de ce décès. Voilà, je ne sais pas aujourd'hui si c'est lié à un afflux particuliers d'urgence vitale, à des difficultés de personnel, à un problème de diagnostic ou d'évaluation initiale de la gravité. Et je crois que toutes les hypothèses sont sur la table. J'attends simplement qu'on me remonte l'information.
Agnès Buzyn avec Alice Moreno.
Alors pour aller plus loin et essayer de comprendre le quotidien des urgences, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que ce cas dramatique met en avant un vrai manque de moyens dans notre pays, dans nos urgences ?
Oui, tout à fait. Les propos de la ministre là, me mettent en colère. Depuis des années, nous alertons sur le manque de lits, le manque de personnel, alors qu'il y a une explosion du nombre de passages aux urgences. Vous savez, le problème, ce n'est pas les gens qui viennent pour une grippe, c'est les personnes qu'on doit hospitaliser, en particulier les personnes âgées. Or là, la ministre, qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui ? Des fermetures de lits, des suppressions de postes. Dans mon hôpital, cette année, on doit rendre 55 postes de soignants, 8 postes de médecins. Et on ferme des lits. Donc aujourd'hui, vous voyez, moi, ce que m'évoque l'attitude de la ministre, c'est celle de son prédécesseur, en 2003, vous voyez, devant la canicule, et qui était au bord de sa piscine, qui disait « Non, il n'y a pas de mort. Là, la ministre, il y a des morts régulièrement aux urgences, et ce n'est pas les personnels qui sont à blâmer, vous voyez, parce qu'on court dans tous les sens. Quand on arrive le matin, on a à s'occuper des gens qui viennent aux urgences et des gens qui sont sur des brancards. Parfois 10, 15 personnes qui sont sur les brancards depuis 12 ou 24 heures. C'est scandaleux. Et on alerte depuis des années. On vient régulièrement, l'Association des médecins urgentistes, dans vos locaux, à chaque fois qu'il y a un petit peu un coup de froid, un petit coup de chaud l'été. Et puis maintenant, c'est en permanence, tous les week-ends. Vous savez, là, l'augmentation d'activité au CHU de Reims aujourd'hui, c'est tout à fait typique pendant une période d'hiver. Il n'y a rien d'exceptionnel. Sauf qu'il n'y avait pas de lit. J'ai eu mes collègues ce matin aux urgences. Comme d'habitude, il manque de lits et donc s'occuper des patients qui ont hospitalisé sur des brancards plus les patients qui arrivent, ce n'est pas possible.
Donc il y a un problème de manque de lits, mais il y a aussi un problème de manque de médecins généralistes. Ce matin, la Fédération hospitalière de France suggère d'organiser un accueil des soins non programmés à l'hôpital, c'est-à-dire par exemple de créer un espace dédié à la médecine de ville au sein des urgences. Ça peut être
Mais on le fait déjà dans beaucoup de services d'urgence, ça s'appelle les circuits courts. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de médecins généralistes. Déjà, nos collègues en ville, ils n'y arrivent plus. Donc ils vont venir faire le travail à l'hôpital. Non, la question aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de véritables services de santé dans les territoires, qu'on arrête de fermer les urgences de proximité, comme c'est le cas en Bourgogne aujourd'hui, qu'on ait des centres de santé avec des médecins salariés dans les zones déficitaires qui puissent accueillir effectivement les urgences classiques, que l'on ait du personnel dans les maisons de retraite, parce que si on avait des infirmières en nombre et des médecins dans les maisons de retraite, eh bien un certain nombre de personnes âgées qui arrivent sur les urgences et qui sont traitées de manière inhumaine aujourd'hui pourraient rester dans les maisons de retraite.
Mais ça coûte cher tout
ça. Bien sûr ça coûte cher, mais sauf que, madame, le problème aujourd'hui, c'est que on nous explique qu'il y a que l'argent qui compte. Moi, je veux bien, si ça coûte trop cher, mais que la ministre vienne me dire, aux urgences, à l'accueil, les personnes qu'on soigne et celles qu'on laisse mourir. Parce que concrètement, aujourd'hui, moi, je ne peux pas faire plus avec moins.
Le cas de Reims, c'est un cas dramatique, qui est très médiatisé, dont on parle beaucoup, l'illustration encore. Est-ce que ça arrive si souvent que ça ? Est-ce que ça arrive souvent ?
Écoutez, il y a un autre cas qui avait été médiatisé à Cochin et rien n'a changé. Les urgences de Cochin aujourd'hui sont débordées, 5 heures d'attente hier soir aux urgences de Cochin, et on veut fermer les urgences de l'Hôtel Dieu, et on veut fermer les urgences de Clamecy, aujourd'hui, il y a un nombre de services d'urgence en grève incroyable, Dijon va pas bien, il y a une grève aujourd'hui aux urgences de Toulon, à Lyon, il y a une grève dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, le 15, pour obtenir du personnel. On ne demande pas la lune, on demande le même nombre de personnes dans nos maisons de retraite qu'en Allemagne ou qu'en Suisse. Il faut créer 200 000 emplois. Vous voyez le retard qu'on a pris, 200 000 emplois dans les maisons de retraite, si on veut qu'il y ait moins de personnes âgées aux urgences.
Merci Christophe Prudhomme. On va en parler avec les auditeurs, évidemment, à la fois si vous êtes médecin, si vous avez été patient et confronté à des heures d'attente dans les urgences. Comment vous appréciez tout cela aujourd'hui, à la fois dans le secteur médical, de la santé, mais à l'extérieur aussi, vos prises de parole. Dès maintenant, ça se passe au 3210, c'est vos messages, notamment sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole.
Un mot du Lévothyrox, le ministère de la Santé a mené sa propre enquête. Finalement, 500 000 Français ont abandonné ce médicament depuis sa nouvelle formule qui avait déclenché une vague d'effets secondaires. 3 millions de personnes sont soignées dans notre pays pour l'hypothyroïdie. Un aveu en demi-teinte pour Nordal Lelandais, mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer. Il a reconnu devant le juge l'avoir pris en stop, mais il affirme l'avoir déposé ensuite sans préciser où. Serge Payot, vous suivez cette affaire pour RTL. Et ce scénario ne colle pas avec les faits.
Oui, car le caporal Arthur Noyer faisait du stop le 12 avril pour retourner à sa caserne du 13e bataillon de chasseurs alpins de Barbie, dans la banlieue de Chambéry. Or, les téléphones du jeune militaire et de Nordal Lelandais ont borné sur des relais qui ne se trouvaient pas sur le trajet de la caserne. Écoutez le procureur de Chambéry, Thierry Dran, qui évoquait le 20 décembre dernier les déplacements d'Arthur Noyer cette nuit-là.
À 3h05, son téléphone avait déclenché un relais sur la commune de Saint-Baldoff. Puis à 3h11, un autre relais sur la commune d'Apremont, à 7,5 km de Chambéry.
Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la région, Saint-Baldoff et Apremont ne se trouvent pas du tout au départ de Chambéry, dans la direction de la caserne d'Arthur Noyer. Les enquêteurs pensent donc que Lelandais ment lorsqu'il affirme qu'il a déposé quelque part le jeune militaire dans la région de Chambéry, sans lui faire de mal.
Serge Puyot. Donald Trump et Kim Jong-un vont se parler, normalement, figurez-vous, et en face à face. C'est historique, on en parle dans un instant.
Stéphane Carpentier, Christelle Robière.
Un dialogue direct entre Donald Trump et Kim Jong-un. La Chine espère qu'ils feront preuve de courage politique pour amorcer une détente. Donald Trump, qui jusque-là qualifiait de petit homme fusé le leader nord-coréen, a donc annoncé contre toute attente un sommet historique avec celui qui le traitait jusqu'à présent de malade mental gâteux. Au cœur de cette rencontre, le nucléaire. Philippe Corbet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à New York pour RTL et il reste beaucoup de questions. La première étant, où et quand ?
Alors, l'émissaire sud-coréen a annoncé que Donald Trump était prêt à une rencontre d'ici mai. Très vite, la Maison-Blanche a fait savoir qu'il n'y avait pas d'échéance. Des soutiens du président aimeraient qu'il prenne son temps, qu'il n'improvise pas dans les négociations comme il le fait parfois. Et ils ne veulent surtout pas que ce soit à Pyongyang, car ce serait aller jouer sur le terrain de l'adversaire. Est-ce que ça pourrait être dans la zone démilitarisée ? Il existe des petits bâtiments de l'ONU à cheval sur la frontière des deux Corées.
Et de quoi vont-ils parler exactement ?
Eh bien, l'Américain va réclamer la dénucléarisation, mais son vice-président en faisait il y a quelques jours un préalable avant toute discussion. Or, Trump a accepté la négociation sans aucun élément concret, seulement une promesse de gel des essais balistiques et nucléaires. En échange, le Nord-Coréen va demander une levée des sanctions économiques. Va-t-il aussi réclamer le retrait d'une partie des troupes américaines en Corée du Sud ? Mais au fond, ce que Kim veut obtenir, c'est la survie de son régime. Les armes nucléaires ne sont qu'un moyen. Que Trump accepte de négocier directement avec une dictature parce qu'elle menace l'Amérique, c'est déjà une reconnaissance de fait de ce pouvoir, ce que cherche le régime depuis des décennies.
Philippe Corbet à New York pour RTL, et c'est dans ce contexte de réchauffement diplomatique que s'ouvrent en Corée du Sud les Jeux paralympiques d'hiver, mais il n'y aura pas de défilé sous la même bannière pour les deux Corées. Elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le drapeau à arborer. L'Allemagne dénonce le protectionnisme de Trump, évoque même un affront. Le président américain a donc décidé de taxer les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se veut prudent. Une guerre commercial, dit-il, ne ferait que des perdants.
Et vous entendrez Bruno Le Maire dans le Tout Info de RTL tout à l'heure à 13h. Bonne fortune, cagnotte fiscale, appelez ça comme vous voulez, mais c'est une réalité. Avec le redémarrage de la croissance, le déficit du budget de l'État a retrouvé son plus bas niveau depuis 2008. Et cette cagnotte suscite évidemment des convoitises. En 2000, Lionel Jospin avait redistribué 50 milliards de francs aux Français. Et Dominique Tenza, certains élus de la majorité aimeraient bien qu'Emmanuel Macron, lui aussi, joue en fait les Pères Noël.
Oui, bien qu'ils n'espèrent pas trop, c'est peut-être un conseil qu'on pourrait leur donner, car s'il y a une phrase que notre président aime répéter, c'est bien celle-là.
Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. Et je suis d'ailleurs pas le Père Noël.
On aura compris qu'il n'est pas là pour distribuer les cadeaux, qu'ils soient fiscaux ou autres. Pourtant, vous le disiez, eh bien de plus en plus de voix s'élèvent dans la majorité pour réclamer une redistribution de cette cagnotte. Un peu plus de justice en faveur, par exemple, des EHPAD, ces maisons de retraite médicalisées, des territoires ruraux en difficulté, ou encore des veuves. Avec le rétablissement de la demi-part fiscale, une mesure qui tient à cœur au député de la Vienne, le macroniste Sacha Houlier.
On a été élu pour être imaginatif, on a été élu pour réparer ce qui ne marchait pas, en l'occurrence vis-à-vis des personnes âgées qui perdent donc un conjoint et qui se retrouvent à payer plein pot alors même qu'avant elles étaient en foyer fiscal à deux parts. Ça ne me paraît pas totalement délirant et je sais que le président est attentif à cette proposition.
Attentif ne veut pas dire prêt à céder. D'ailleurs, son collègue Stanislas Guérini, lui aussi député En Marche, met en garde contre une envie soudaine de dépenser à tout va.
C'est important aujourd'hui d'avoir en tête qu'on ne doit pas financer des dépenses structurelles par des recettes exceptionnelles. Quand il y a de la reprise, il faut en profiter pour réduire les déficits. Moi, je rappelle qu'on est un pays qui vit à crédit. On emprunte 500 millions d'euros par jour sur les marchés financiers pour financer notre budget.
Alors, entre les cigales et ceux qui la joueraient plutôt tendance fourmi, Cela promet en tout cas un débat animé ces prochaines semaines.
Merci Dominique Tenza du service politique de RTL. J'aurais bien vous écouter au 3210 avec Christelle. On dialoguerait évidemment. Est-ce que vous pensez justement que Emmanuel Macron, souvent qualifié de président des riches, devrait bien redistribuer une part du gâteau? Vous êtes les bienvenus. Vos appels, ça se passe au 3210 dès maintenant. 3-2-1-0.
Le salon de l'automobile de Genève s'est ouvert hier au grand public et cette année, eh bien, on se croirait dans un film de science-fiction. Christophe Bourou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste auto ici à RTL. Vous en revenez. Est-ce que vous avez vu, c'est un petit peu le cinquième élément, mais en vrai, c'est-à-dire des voitures volantes.
Oui, pour tous ceux qui nous écoutent actuellement dans les bouchons, décoller du bitume pour échapper à la circulation, on en rêve.
Ah oui.
Aujourd'hui, c'est plus la science-fiction. Un constructeur néerlandais investit des millions dans une voiture volante baptisée Liberty, longue de 4 mètres, équipée de 3 roues, 2 moteurs. Alors, à l'intérieur, tout rappelle l'univers d'une cabine d'avion, 2 places, une myriade de boutons sur le tableau de bord et un manche pour décoller. L'hélice arrière se met en route, stabilisée par un rotor monté sur le toit. Mais monter au ciel à un prix plus cher qu'une Ferrari, comptez entre 300 et 500 000 euros selon les versions. Bon, si vous avez gagné au loto, il faudra tout de même, en plus de votre permis de conduire, passer votre brevet de pilote nécessaire pour bien piloter ce genre d'engin.
Ça ressemble plutôt à un hélico. Plus sérieusement, la voiture autonome, ça, par contre, c'est vraiment pour demain.
Oui, d'ailleurs, Renault a présenté un concept de voiture taxi, un robot taxi autonome, et parle déjà de 2022, c'est-à-dire demain. Mais cela va se faire progressivement, par petites touches, avant la vraie voiture qui va avancer toute seule. On le voit à Genève, les nouveaux modèles intègrent de plus en plus de systèmes dits intelligents, permettant de freiner à votre place, par exemple de prendre de la distance avec la voiture qui précède, et commencer de plus en plus à lâcher les mains dans un bouchon.
Alors, seriez-vous prêt à rouler dans une voiture autonome? C'est notre question du jour sur RTL.fr. Il n'y a que 27% de oui. En attendant, dites-nous dès maintenant au 3210 si vous utilisez beaucoup les aides à la conduite sur votre véhicule et ce qu'elles vous apportent. D'ailleurs, vos témoignages sont importants. Dès maintenant, on en reparle avec Christophe tout à l'heure. Vos appels 3210 3210.